Cette semaine, dans le balado, on veut devenir célèbre, on veut devenir riche et on veut attraper des voleurs. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Jean-François Berton et Patrick Marleau. Salut Jeff.
Salut, salut. Ben, attraper des voleurs ou devenir riche aussi, je te dirais.
Oui, c'est, les deux sont interchangeables,
tout le monde,
effectivement.
Tout le monde. Ah, c'est des films sur... pas sur l'espoir, hein, juste sur le succès, le rêve.
Oui.
Voler ce qu'on ne peut pas avoir.
Quand même de belles surprises cette semaine.
Changer son
son destin,
sa classe sociale, ouais. C'est pas trop là, s'élever et tout. Est-ce que tu disais des...
Ben, je pense que c'est une semaine avec des belles surprises.
Oui, mais là
pour les amateurs cinéma.
Tout à fait. Puis c'est l'équivalent du mois de septembre, c'est-à-dire qu'en septembre il y avait plein de films de plein de genres en début d'automne. Puis là on voit ça là. On va parler des Golden Globes tantôt, mais les films internationaux déboulent, mais aussi des films qui avaient eu des sorties limitées aux États-Unis qui là commencent à prendre l'affiche et tout. Fait que là c'est j'espère que dans votre budget cinéma de début d'année là, vous prévoyez là, y aller une à deux fois par semaine pour les amateurs, parce qu'il y a énormément de choses à voir et des choses qui sont d'actualité, parce que les annonces des Oscars vont être faites prochainement, puis les Oscars sont début mars. Fait que si vous aimez être dans cette folie-là, et là, on reviendra sur Golden Globe, mais après, c'est la succession des autres, là, des journalistes, puis des
guilds.
Les guilds aussi, de chacun. Ouais, c'est ça. Fait que c'est la saison des cérémonies de fin d'année, dans le fond, c'est là.
Donc, allons-y d'entrée de jeu dans l'actualité. Ah, ben, tu parlais, oui.
Je mentionnais que peut-être vous l'avez vu. J'aurais voulu le mettre en ligne plus tôt, mais en tout cas, on a eu des problèmes de migration de site Internet et tout. Fait que depuis hier, depuis jeudi soir, notre top 10, hein, parlant de fin d'année, est en ligne, et qu'on a fait avec un invité cette année, avec notre ami Nico Lacroix, qui est co-animateur au FM 93, la radio à Québec, ben, une des radios de Québec. Grand cinéphile à ses heures. Beaucoup de films d'horreur, notamment de science-fiction et d'horreur. Fait que voilà, on essaiera de le réinviter cette année si l'occasion se présente.
Ça a été vraiment une belle rencontre.
Oui, c'est ça. Ben, on le connaissait hors micro, mais d'échange et tout.
Oui, tout à fait. Fait que oui, je pense que c'est un invité qu'on va garder près de nous, parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire.
Voilà.
Nico, quand même. Donc, je m'en allais sur l'actualité de la semaine et tu as parlé des nominations aux Oscars. Donc, vu la situation qu'on connaît en Californie, les feux qui ravagent toute la région de Los Angeles, donc les nominations ont été décalées d'une semaine pour laisser le temps aux
d'une
gens.
Semaine?
Ouais.
Là, j'avais mal compris. Je pensais que c'était supposé être le 17, puis j'avais compris le 19. Fait que c'était juste deux jours.
Ah, c'est deux jours? Je pensais que c'était avant ça. Ah, ben, donc,
c'est supposé être le vendredi 17.
Je pensais que c'était lundi.
Non.
Une fin de semaine pour souffler un peu.
Pour attendre au lundi. Pour souffler un peu, oui, littéralement. Là, justement, il ne faut pas trop souffler sur les braises.
Donc, en attendant, on peut se rabattre effectivement sur les Golden Globes, dont la cérémonie a eu dimanche dernier, animée pour la première fois par Nikki Glaser, une humoriste qui a fait parler beaucoup d'elle pour son numéro dans le roast de Tom Brady sur Netflix.
OK. Ouais, oui, je pense que tu m'avais dit ça quand on avait annoncé.
Ouais.
C'est qui.
Okay. Donc, il n'avait pas ménagé. Et honnêtement, elle avait un très bon job.
Ben, elle a roasté un peu tout le monde. Beaucoup Stanley Tucci, moi, je
trouve. Ouais, mais tu sais, elle est allée dans la politesse.
Oui,
moins corrosif que Ricky Gervais. Mm-hmm. Fait que je pense que, d'ailleurs, ils vont probablement la réinviter l'année prochaine. Là. Je pense que les codes d'écoute ont été supérieurs à l'année dernière. Puis... honnêtement, je pense que c'est... Elle a fait un bon boulot.
L'as-tu écouté au complet?
Oui, j'ai écouté, oui. Moi, j'adore ça.
J'ai écouté quelques extraits sur YouTube, sur le YouTube des Golden Globes. Toutes les affaires sont là, quelques discours. Et j'ai écouté le numéro d'ouverture, que j'ai bien aimé.
Puis non, sinon, les présentateurs étaient assez drabes, honnêtement, là, à part Seth Rogen et Catherine O'Hara qui ont fait le meilleur bit... qui était drôle en présentant Oscar.
Okay.
Tu vas le voir, moi. Je pense que c'est le meilleur de la
surtout,
soirée.
Pourquoi ce pairing ensemble? Parce
qu'ils sont Canadiens, tout simplement.
Ah, OK.
Puis je ne me rappelle plus quel prix ils présentaient. Je pense que c'est l'actrice soutien, en tout cas, bref.
OK.
Fait que, ouais. Donc, voilà, petit résumé des gagnants de la soirée.
Mm-hmm.
Écoute, ça s'annonce, je pense, un combat à finir entre The Brutalist et Emilia Perez aux Oscars, car ils ont été tous les deux les grands gagnants de la soirée.
Donc, meilleur film, comédie pour Perez et dramatique pour le très long et la saga Brutalist.
Donc, The Brutalist met également la main sur le prix meilleur réalisateur pour Bradley Corbet et meilleur acteur pour Adrien Brody. Et pour Emilio Perez, ben, c'est actrice soutien pour Zoé Saldana,
ouais.
En plus du film international aussi.
Et
quand
de
même.
La chanson originale.
Ouais. Ouais. Ben là, ça aurait été dur. Une comédie musicale qui ne gagne pas meilleure chanson, ça aurait fait...
Ah, ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est Wicked qui va gagner aux Oscars pour Gravity. Ou...
Non, parce que c'est pas une chanson originale.
OK, vu qu'elle était elle existait
oui,
déjà pour
aux Oscars,
Broadway.
Aux Oscars, il faut que ce soit vraiment une
composée
chanson
pour
le film.
Ah, OK. Fait qu'elle n'était pas en nomination. Okay.
Non, malheureusement. Sinon, dans les autres catégories, je pense que la surprise de la soirée, parce qu'il y en a eu quand même quelques-unes, c'est Fernanda Torres mm-hmm. qui a remporté meilleure actrice pour Je suis toujours là, le film brésilien là, qui va prendre l'affiche prochainement.
Ouais.
Devant quand même des gros canons comme Angelina Jolie, qu'on prétendait peut-être être la gagnante. Puis d'ailleurs, ce qui est une belle histoire, c'est que sa mère avait été nommée comme au Golden Globes il y a une vingtaine d'années pour le film du même réalisateur. Quand même. Sinon, actrice, ben, la comédie, c'est The Substance pour Demi Moore. Alors, ouais. Très heureux,
mais
je
c'est
pense.
Drôle, il y avait Pamela Anderson qui était en nomination dans Dramatique pour un peu le même genre de rôle pour The Last Showgirl qui sort dans quelques semaines. La dernière danseuse de cabaret, qui est un peu où ça rappelle peut-être The Wrestler avec Mickey Rourke, mais pendant féminin et danseuse de cabaret. Là.
Non, deux actrices quand même qui célèbrent leur comeback cette année. Donc
c'est
des
ça,
rôles
avec des
marquants.
Rôles qui ressemblent un peu à leur propre carrière, un peu méta, tout ça. Là.
Donc, Demi Moore le remporte, et je pense que c'est très mérité, et je pense que ça la met en pole position pour cette catégorie-là. Également, Sebastian Stan avait remporté pour A Different Man dans la catégorie comédie.
Il était en nomination dans drame aussi. Hein.
Oui,
était en nomination dans deux.
Double nomination.
Ça aurait été sick qu'il gagne les deux.
Oui, écoute, je ne sais pas si ça s'est déjà fait.
Ouais, déjà double nominé, ça ne doit pas arriver si souvent que ça. Là.
Et acteur de soutien, comédie, c'était... non, c'est du drame? Là,
non, c'est comédie.
Kieran Culkin pour A Real Pain.
Oui.
Quand même.
Puis très cool. Je suis vraiment content. Il a l'air vraiment très sympathique.
Ouais.
Puis j'ai écouté son petit discours qui commence en disant qu'il vient de prendre un shot avec Mario Lopez. Un shot de
c'est
tequila.
Un électron libre, on le sent.
Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que finalement... dans Real Pain, on a l'impression que Jesse Eisenberg est pas si loin de son personnage et que finalement Kieran non plus est
on
pas si loin de son personnage.
J'ai l'impression qu'il a dû l'écrire avec lui en tête. Ils sont peut-être des amis. Puis,
ah, peut-être bien.
C'est ça. Dans les autres gagnants, l'autre grande surprise pour le film d'animation, c'est Flo quand même, qui continue à récolter des prix assez impressionnants. Là.
Puis, ben, très très bon film et tout. Ouais. C'est juste que des films. Indépendant qui vient de la Lettonie et tout, on s'attend à ce qu'il se fasse tasser par des
par Disney, les 2, grosses,
puis
oui.
Je me souviens plus c'est quoi les autres en nomination.
The Wild Robot aussi qui est en nomination.
Wild Robot,
même.
C'est vrai que ça pourrait être un bon, mais cool, tant mieux. C'est vraiment le fun de voir qu'on regarde sur l'international, même pas juste dans la catégorie meilleur film international, comme par exemple Emilia Perez, qui est une... C'est une production sûrement internationale parce que c'est un Jacques Audiard qui se passe au Mexique. Puis
je ne sais pas
dans
quel
monde,
Netflix,
puis...
c'est Netflix France ou Netflix États-Unis qui a financé.
Ben, en fait,
parce que...
même pas sûr qu'ils ont financé. Je pense
non,
qu'ils ont juste
acheté les droits
pour la distribution internationale. Puis tout. Je suis pas certain de ça, mais je me demande s'ils l'ont pas acheté après la présentation à Cannes. Ouais.
Ça se fait bien. Dans les autres prix, scénario, Conclave quand même, puis musique Challengers.
Oui, ben le prolifique duo de Trent Reznor et Atticus Ross.
Donc voilà pour les Golden Globes, toujours dans l'actualité. Alors, ben, tu mentionnais les prix des guildes s'en viennent. Alors, on a révélé les nommés pour réalisateurs, la guilde des réalisateurs et la guilde des acteurs et actrices. Donc,
puis y a-t-il des filles chez les acteurs, chez les réals?
Réalisateurs, pas cette année non plus. ça va avoir lieu le 8 février et même notre Denis a été écarté.
Ah là là!
Fait que sans Golden Globes, sans nomination.
C'est surprenant qu'il soit aux Oscars.
Ouais, je pense qu'on peut oublier ça tout de suite.
Aïe.
Mais quand même, donc Jacques Audiard s'y retrouve, Sean Baker pour Anora, Edward Berger pour Conclave, Brady Corbet pour
Brutalist
et James Mangold pour A Complete Unknown.
Ah, tu vois, moi j'aurais enlevé James puis j'aurais mis Denis.
Fait que, ouais. Ça aurait pu, ouais, ça peut être ça. Bon. Alors, on jugera qui gagnera à ce moment-là, le 8 février. Puis le 23 février, donc, les acteurs. Quelques surprises quand même aussi. Alors, acteurs, là, on n'a pas deux catégories là, chez les comédiens. Fait que...
J'ai vraiment de la misère à prendre les Golden Globes au sérieux à cause de ça.
Ouais, je pense que...
Je comprends pourquoi ils font ça, mais en même temps, je trouve que ça dilue le produit. Là. Tout le monde. Puis en plus, ils ont comme 7 nommés, je pense, par catégorie 6 ou 7.
Non, c'est 5.
C'est 5, ok, ouais, ça ouais. m'apparaissait.
Mais. Puis t'as toujours, tu sais, les controverses comme Demi Moore avec Substance.
Ouais, c'est ça.
Okay, bref.
Fait que. Mais là, puis si tu te retrouves à mettre, tu sais, des acteurs, actrices principaux, il y a beaucoup de bons films dans l'année, puis c'est vrai que tu peux en trouver 10. Mais là, en secondaire, ça commence à... Ouais. Je trouve que ça ratisse large, là, puis...
Donc, acteurs principaux, on a... Brady... Adrian Brody.
Brody,
oui, ouais. Oui, excuse-moi.
Tom Brady.
Timothée Chalamet.
Ouais.
Daniel Craig pour Queer. Coleman Domingo pour Sing Sing. Et Ralph Fiennes pour Conclave. Donc, tout du monde qui a eu des nominations aux Golden Globes. Actrice Pamela Anderson. Cynthia Erivo pour Wicked. Carla Sofia Gascon pour... Emilia Perez, Mickey Madison pour Anora et Demi Moore pour The Substance. Fait que ici,
ça se ressemble,
ça se ressemble très
année,
bien.
Ouais.
Acteur de soutien, là, c'est Jonathan Bailey.
Mais c'est intéressant qu'il y ait Demi Moore plus Pamela Anderson. On ne l'a pas encore vu, là, mais en tout cas, on va en parler dans les prochaines semaines Last Showgirl.
Ouais.
C'est sûr que Substance a beaucoup plus de buzz, sorti beaucoup plus majeur.
Puis je pense que c'est un rôle beaucoup plus audacieux aussi.
OK, ouais.
Fait que moi, j'ai l'impression que Moore va se rendre jusqu'à la fin.
Avais-tu déjà gagné un Oscar?
Non, jamais.
C'est ça, pas pour J.I. Jane ou des affaires de moi.
Ben, en fait,
pas pour Striptease. Elle n'a pas gagné un.
On doit l'avouer, Demi Moore, elle n'a jamais été considérée comme une grande actrice.
Okay.
Fait que c'est vraiment comme un double comeback là, en plus, qu'elle montre qu'elle peut jouer.
Non seulement je suis encore là, mais j'ai toujours été bonne.
Ouais,
c'est juste que je choisissais des films payants.
Probablement, là, j'ai mal choisi mes rôles. Bien qu'au début de sa carrière, elle avait des petits rôles où elle pouvait jouer un petit peu plus. Là, mais
un qui est fascinant pour ça, c'est Adrian Brody.
Ouais.
J'ai vraiment envie d'écouter plus de ses films parce que souvent on écoute. Tu sais, les grands films, là, le pianiste, puis là, maintenant, il va avoir le brutaliste, puis t'es comme... Ouais, mais il y a quand même Predator, puis Splice, qui était comme des essais vers le blockbuster ou le film américain, puis là, il a fait ben des films d'action de B-movie, puis de straight-to-DVD, puis aussi, même affaire, lui, c'est juste qu'il est plus jeune, mais il revient quand même dans ce côté d'un grand film, fait que je sais pas trop qu'est-ce qui drive sa carrière ou qu'est-ce qui se passe, ou que... Je sais pas, il y a un visage un peu atypique ou quoi que ce soit qui fait qu'on le voit pas dans des comédies romantiques.
Ouais, il y a peut-être ça.
Il y a Detachment, là, un de ses films où il jouait un prof substitut à l'école, puis tout, c'était quand même super bon, mais tu sais, très indie, justement.
Mais c'est drôle que t'en parles, parce que j'ai vu un entretien avec lui récemment, je pense que c'était après même qu'il a gagné Golden Globes, que pour lui, c'était comme un soulagement qu'il pouvait revenir à ce genre de rôle-là.
OK.
Parce que qu'il était très conscient que sa carrière tournait en rond, qu'il y avait moins d'opportunités. Fait que des fois, c'est plus ça. À un moment donné, les portes s'ouvrent, se referment, tu fais moins d'argent au box-office.
Puis ce que ça prend, on dirait, dans faudrait que j'analyse là, vraiment en détail, c'est pas genre un Scorsese ou un Ridley Scott qui va te rechercher. C'est un jeune, jeune cinéaste qui... trippait sur toi pour X rôle, qui fait « Hey, moi, j'aimerais vraiment ça. » Puis la personne, le comédien, comédienne, devient accessible parce que, comme, ben oui, tu sais, Pamela Anderson n'a jamais eu des rôles comme ça, là, tu sais.
Le meilleur exemple, c'est John Travolta avec Pulp Fiction.
OK, fait qu'un jeune Tarantino
ben
qui
oui.
est comme « Hey, moi,
puis
je
c'était
trouve... »
C'était Saturday Night Fever, puis Travolta, sa carrière était finie, là, puis qui l'a ramené à la vie.
Puis ça lui a permis d'aller faire plein de films d'action de merde jusqu'à la fin de sa carrière. Mais
au moins, là, il a fait beaucoup d'argent.
Oui, puis ça l'a relancé. Puis c'est là qu'il a fait l'Archange, puis toutes ces affaires-là. C'est après, là, tu sais, ça l'a... Il n'est pas juste resté dans l'action, ça l'a remis dans l'œil du public.
Ah ouais, non, pendant... Après Pulp Fiction, il était à 5-6 ans, qui était
dans Face-Off, puis ces trucs-là, c'est des gros films, du gros John Woo.
Donc, juste finir avec les acteurs de soutien. Donc, Jonathan Bailey, qui est là, peut-être des surprises, qui jouait dans Wicked, qui est comme arrivé de nulle part. Ivan Borisov d'Anora. On retrouve Kieran Culkin. On retrouve Jeremy Strong de The Apprentice. Et Edward Norton de Complete Unknown pour les hommes. Et pour les femmes,
Maura. Je pense que ça va être Strong.
Ah, moi, je
Culkin. Culkin. Culkin.
Chez les femmes, j'ai mal écrit son prénom. Je pense que c'était Barbaro, Moana, Moana.
Pour Complete Unknown.
Melissa, désolé. Jamie Lee Curtis pour The Last Showgirl. Une autre surprise qui est venue nulle part, c'est pas un nom qui circulait. Daniel Deadwyler pour The Piano Lesson. Et Ariana Grande pour évidemment Wicked.
Ouais, mais
et
c'est que
Zeldana.
Ouais, puis c'est parce que The Piano Lesson, c'est un film Netflix qui n'est même pas sorti au cinéma, à peine juste pour être là-dessus, puis tout, un peu comme Emilia Perez, mais Emilia Perez avait un buzz de Cannes et tout, fait que je pense que Piano Lesson est comme très bon film, mais personne ne parle de cette affaire-là, malheureusement.
Effectivement.
Ben, c'est tous les studios, tout le monde essaie, arrive à la fin, « Hey, il y a mon film, il y a le mien aussi », ben, ça se mange de la laine sur le dos, puis...
Donc, on connaîtra les gagnants le 23 février. Et en terminant, ben, moi, une nouvelle qui m'a attristé.
Fait que 8 février, les Réals.
Oui,
23
février,
les
comédiens. Et ça, les comédiens, ça va être diffusé sur Netflix, je pense. Je ne sais pas si c'est la deuxième année qu'ils
diffusent.
Puis
il doit avoir celui des scénaristes aussi ou quelque chose
comme ça. Oui,
tout ça
va suivre.
Je me souviens quand on fait nos prédictions, là, c'est le dernier week-end avant.
Moi, je fais une synthèse un peu de tout ça. Puis généralement, ça pas tout le temps.
Ouais,
mais,
l'an passé, on s'était fait. C'est l'an passé ou l'autre d'avant là, que Western Front. Ah,
quoi,
tout déjoué,
front,
ouais, c'est
tout
ça.
À fait.
Parce qu'il était nommé aux Oscars dans plus de catégories que dans toutes ces guildes-là, puisque c'est un film international. C'est ce qui arrive. Comme peut-être cette année, eux vont peut-être pas mettre Perez à ben des places, quoique les comédiennes sont là souvent. Puis que finalement, peut-être qu'aux Oscars, il va être dans 4-5 catégories. Puis c'est là que ça pop.
Donc, on a annoncé qu'on repoussait la sortie du deuxième Batman itération de Matt Reeves avec Robert Pattinson d'un an quand même.
Ben, rendu là, c'est comme dire, arrêtez de les annoncer puis juste... C'est comme ils ont fait avec le Spider-Man. Là. Le projet n'est pas cancellé, mais on le retire du calendrier. Il faut qu'on travaille sur le film, puis c'est ça. Puis là, on est rendu en
octobre 2027.
2027, tu sais, c'est dans 2 ans et demi. Là.
Ouais. Puis quand même, ça
même
va
plus 2 ans et 10 mois.
Et 5 ans après le premier, je trouve que ça commence à être long un peu, là, honnêtement. Là. Mais bon, espérons que, la qualité va être au rendez-vous. Ben, c'est vraiment une question d'écriture. Je pense que Matt Reeves, qui est aussi scénariste, n'est pas tout à fait content de...
Mais en même temps, je comprends pas. Ça fait comme 2 ans là, qu'il travaille sur le scénario. Puis là, il était supposé sortir genre en 2026. Puis là, il est comme, hey, je suis pas content du scénario. Je suis comme, mais... Tu fais pas ça à temps plein, là. Je comprends que t'es pas... À chaque jour, t'écris pas pendant 8 heures, mais... Ou bien, on le sait pas, puis il va nous sortir un autre film entre-temps, puis il est sur d'autres choses. C'est rare que les cinéastes sont sur plusieurs projets quand ils écrivent eux-mêmes les films, puis tout. T'sais, Ridley Scott, c'est pour ça qu'il sort un film à les 15 mois. C'est parce que il est pas au scénario, puis tout. Là. Il a sûrement un droit de regard ou quelque chose, mais c'est que lui, il est tout le temps en train de préparer le prochain film. Il va le tourner, puis pendant que c'est en montage, il va sur le prochain, puis il dit « C'est comme ça, je continue à en faire plein. Si j'attendais que ça sorte, je serais sûrement tellement des fois débiné par la mise en marché, puis le résultat, puis le box-office, que ça me donnerait pas envie de recontinuer. » Mais j'arrête jamais, fait que j'ai jamais besoin de relancer la machine. Je surfe tout le temps sur une perpétuelle vague de tournage jusqu'à temps que,
de pré-prod, là,
que clairement sa santé lui permettra plus.
Donc à suivre, mais c'est une suite que j'attends quand même avec beaucoup d'impatience. Je suis curieux de voir où on va amener le récit dans cet univers de Batman. Donc à suivre. Allons-y avec les sorties de la semaine. Il n'y avait pas de temps de bonne annonce.
Non, ben là, on voit que aussi, on parle autant, on a plein de films d'Oscars et de prix qui arrivent, mais il y a tout le temps énormément de films d'horreur en début d'année. Ben, c'est le cas aussi. Fait que là, on a Wolfman qui sort la semaine prochaine.
Ouais.
On a sorti la dernière bande-annonce pour Companion qui sort le 31 janvier et Art Eyes qui est plus une espèce de comédie... comédie d'horreur de le nouveau Bloody Valentine et ces affaires-là là, d'un tueur qui cherche les petits couples à les tuer. Ça sort le 7 février. Puis il me semble qu'il y a même d'autres films d'horreur dans les semaines suivantes. Ah ben, il y a Le Singe qui sort le 21 février, il y a je sais plus quoi en mars. Fait que toutes les deux semaines,
période,
là, il va y avoir plein de films d'horreur, puis c'est sûr que ça va être beaucoup d'appelés, peu d'élus. Là.
Ouais.
Ils seront pas tous intéressants, mais on va se faire le devoir de tous les écouter et de vous dire qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant dans chacun d'entre eux.
Donc, attaquons les sorties de la semaine. Je vais te faire plaisir. Allons-y avec celui que tu attendais avec impatience.
Ah ouais. Je sais pas.
Den of Thieves 2 de Christian Goudegast.
Très surprenant que ce soit le premier film qu'on parle aujourd'hui. Au Québec, à Armes égales 2, Opération Pantera. C'est une suite inespérée. Contrairement à The Batman, qu'on l'attend et que ça n'arrive pas, ben, Den of Thieves, qui avait pris l'affiche en 2018, de aussi Christian Goodegast, je sais pas trop. Ouais, à un moment donné, j'ai entendu parler en 2022 là, qu'il y avait une suite qui s'en venait, puis là, c'est 6 mois plus tard, tu n'entends pas parler, tu penses que c'est mort dans l'œuf. Eh bien non, début 2025. Je pense qu'on essaie aussi, on ne se cachera pas, là, la technique Beekeeper qu'il y avait eu l'an dernier d'un petit film d'action avec des faces qu'on aime, parce qu'ici, on va retrouver le bon Gerard Butler. De sortir ça en janvier quand il n'y a pas trop d'eau. Ou quand, en fait, c'est du counter-programming, finalement. Ouais, là, on dit on a juste des films d'horreur puis des films à Oscar. Ben là, des films d'action pour tous.
On n'est pas tant dans l'action.
Mais
non
c'est
plus,
justement, c'est effectivement, on est plus vraiment dans ce qu'on appelle un heist movie, un film de braquage. Ce qui était arrivé dans le premier, c'est que Gerard Butler est un policier un peu tout croche qui brosse souvent que sa vie familiale et conjugale bat de l'aile et sur la déroute. Et essaie de traquer là, ça, des criminels qui travaillent sur un gros braquage duquel font partie le personnage de O'Shea Jackson Jr., qui est le fils de Ice Cube, le plus vieux fils de Ice Cube. Et finalement, le film terminait, puis O'Shea s'en allait, long gone, perdu en Europe. Et là, ben ici, Big Nick O'Brien, donc le personnage de Gerard Butler, a retrouvé la trace de O'Shea Jackson. Et là, on comprend qu'il vient de divorcer, ça va plus bien, il est irrité de tout. Il a l'air ballonné aussi tout le long du film. Il a l'air de trouver ça rough. Film
qui les est six ans paraissent un peu.
Oui, c'est ça. Et film qui est hautement commandité par plein de compagnies d'alcool. Là. Chaque plan, c'est une Johnny Walker. Après, Don Juan, la tequila, puis un autre, telle autre bière, puis tout. Fait que, ouais, on mange des gros steaks, on boit de l'alcool, puis on a des diamants. Fait qu'il le retrouve, puis il est comme, garde-moi ma vie, et tout croche, ça va pas bien. J'embarque avec toi, sinon je te dénonce. Fait qu'il est obligé de l'incorporer à son plan de braquer complètement une espèce de banque à diamants, si on veut, là, mm-hmm. un endroit qui est comme un siège social sur la Côte d'Azur où on deal du diamant, l'espèce de Wall Street du bijou et du diamant. Fait que tout le film va être une grande mise en œuvre de tout ça. On comprend qu'un peu à la Ronin, c'est du monde qui font travailler ensemble mais qui se connaissent pas nécessairement. Il y a une espèce de pivot qui engage ces gens-là, mais là, il faut qu'ils apprennent à se faire confiance, et etc. Et c'est du monde arnaqué. Puis tranquillement monter ce fameux plan de braquage qui est toujours très intéressant. Quand même moins d'action comme telle, là, d'explosion puis de coups de feu que dans le premier film qui avait une grosse séquence à la fin là, dans le trafic où ils se pourchassent puis ils se tirent dessus. Mais c'est ce que j'appellerais du... Tu sais, on a le elevated horror, là, qui est comme pas juste du horror flick, mais comme on développe plus, puis les personnages, puis l'ambiance. Mais c'est comme du elevated action, un peu. Le film de papa, mais qui est... ce personnage-là, pourquoi il est là? Tu sais, le policier, c'est pas juste un bon policier. Il est sombre, il est tout croche, il est tout corrompu. Mais les méchants sont pas si méchants que ça. C'est juste qu'ils sont bons là-dedans. Mais ils écoutent de la musique aussi, puis ils sont comme tout le monde. Puis ils donnent du type quand ils achètent du gelato, tu sais, puis... De mettre plus ce côté-là, mais reste que finalement, dans ces séquences-là d'action puis de vol, on prend quand même des raccourcis scénaristiques qu'on connaît du genre quand les films durent 1h30, mais là, ils durent 2h10 parce qu'on prend le temps d'aimer puis de caresser ces personnages-là. T'sais.
Oui, c'est des films qu'il faut laisser la logique au vestiaire, comme on dit. Il ne faut pas trop s'attarder aux détails. Mais honnêtement, ça a été une belle découverte parce que je n'avais jamais vu le premier.
Ouais, fait que là, tout à fait.
Fait que j'ai fait un double projection. Donc, je l'ai écouté hier soir, alors c'est tout frais à ma mémoire. Puis honnêtement, j'ai quand même bien aimé. J'aime beaucoup ce genre-là, honnêtement. Heat de Michael Mann fait partie de mes films préférés. Donc, on sent le premier qui est vraiment un hommage aussi à ce film-là, je trouvais.
Oui.
Puis ce que j'aime, c'est que c'est justement, on est dans un ton très réaliste. Comme des films à petit budget, mais bien fait. Fait que j'étais quand même curieux de voir cette
là,
suite-là.
Gros tournage international, comme on dit.
On sent un petit peu plus de moyens, mais... Fait que c'est what you see, c'est what you get. Vous avez aimé le premier, il n'y a pas de raison que vous n'aimez pas le deuxième. Je trouve qu'il y avait un peu une vibe, un peu à The Equalizer, le dernier, parce qu'il se passait lui aussi en Italie.
Avec des plans aériens de chars dans des courbes impossibles.
Puis ce qui est quand même drôle comme fun fact, en fait, ça se déroule à Nice, mais ils n'ont pas tourné du tout en France.
Ah ouais, okay.
Ça a été tourné à Santa Cruz, dans les Caraïbes. Donc, fait qu'ils ont... réussi à nous bluffer parce que moi, étant allé à Nice cet été, j'étais tout content. Hey, c'est Nice!
Ouais, c'est ça.
Je reconnaissais pas grand chose, mais je trouvais que ça avait un peu le style visuel, mais en même temps, j'ai pas tout visité. Là, c'est quand même une grande ville. Fait que je trouvais ça curieux. Donc, soyez avertis. Puis ce qui est intéressant, c'est que parce qu'on en jasait justement, hey, c'était méconnu cet endroit-là à Nice, d'échange de diamants, ouais. Puis de Wall Street, tout ça, ça n'existe pas.
OK, OK.
Ce n'est pas vrai. En fait, c'est en Belgique. Ah, fait qu'ils ont recopié ce quartier-là dans la ville d'Antwerp. Et dans le fond, le film est inspiré d'un vrai vol qui est arrivé. Parce qu'il y a une petite connexion au début du film où lorsqu'ils prennent les diamants, c'est en Belgique, ouais. À l'aéroport d'Antwerp. Donc, c'est vraiment dans cette ville-là qui existe et qui a eu un vrai cambriolage.
OK. Donc, mais pourquoi ils l'ont pas gardé en Belgique? Ah, pour les décors, puis c'est ça.
On va savoir. Pas, ouais, ouais. Je sais pas. Donc, un vol qui avait eu en 2003 de plus de 100 millions de diamants et tout ça. Mais ils avaient été attrapés et mis en justice. Fait que, ouais, un film qui prend son temps quand même.
Peut-être que c'est ce qui va arriver ici aussi. Peut-être. Qui sait?
Donc, un film qui prend son temps, puis moi, je trouve ça le fun. J'apprécie, moi, ce genre-là.
Ouais, puis qui tombe pas non plus dans...
La surenchère, peut-être,
visuelle. Dans la surenchère, ouais. Visuelle, dans le genre, on va coucher avec les filles qu'il y a là, puis tout, tu sais, il y a une ou deux filles au cœur du récit, mais c'est plus comme one of the boys, tu sais, mm-hmm. Dans le sens que, non, là, on travaille sur cette affaire-là, puis c'est ça qui est sérieux, puis les arnaques, puis les associations, puis ces choses-là, tu sais. Fait que, ouais, moi, j'aime bien. Puis, tu sais, pour Butler, ça lui permet d'être assez coloré dans ce personnage-là, oui, qui était encore plus coco crazy dans le premier, parce qu'il était chez lui, tu sais. C'était à L.A., je pense, le premier, tu sais, avec ses policiers et tout. Là, tu vois qu'il est plus, comment on appelle ça, donc? Un renégat, tu sais, qui est tout seul, qui a trahi pour se joindre à eux, fait qu'il est un petit peu plus dimé. C'est dommage pour O'Shea Jackson, parce que lui, il a un personnage qui est souvent en réaction à ces choses-là. Il garde tout en lui, parce que c'est un peu ce qui arrive dans le premier. On sait pas trop où il se place réellement par rapport à tout ça. Fait qu'il a l'air plus drabe. Il a pas l'air mauvais, c'est juste que son personnage est beaucoup plus effacé par rapport à Big Nick, qui a des chemises hawaïennes, puis que c'est ça. Il a toujours l'air...
Plus caractériel.
Il a toujours l'air de rôter de l'ail. Moi, c'est ça que je dirais, là. Avec ses croissants et tout, là. Mais j'adore Gerard Butler, je pense. Je l'avais découvert dans genre Rock'n'Roller de Guy Ritchie à l'époque, là, qui était... C'était-tu lui qui faisait... Non, c'était Tom Hardy qui faisait Pretty Boy, je sais pas quoi, mais on le voyait beaucoup dans ces films-là et tout. Puis tu sais, je suis pas sûr qu'il a fait des grands films, mais on va quand même se rappeler de lui, justement, la trilogie, là, London, puis As Fallen, puis toutes ces affaires-là. Ben, le
300 demeure marquant quand
oui,
même.
Oui, c'est vrai, film, ouais, mais... son fameux six-pack.
Qui était peinturé.
Puis il était... Ah ouais, OK, ouais. Ça se peut. Puis il était venu tourner à Montréal, c'était-tu 300 ou d'autres films, il est venu à Montréal?
Ouais, 300, ça avait été tourné à Montréal, effectivement, ouais.
Puis, ouais, c'est ça. Je l'aime beaucoup, ce comédien-là. Mais, ouais, des films d'action. Elle en a fait un avec... ah, merde. Ça oublie tout, parce que j'ai oublié son nom, mais... Jamie... l'acteur, rappeur noir.
Jamie Foxx,
ouais. Okay. Elle en a fait un de vengeance, un avocat, puis l'autre, puis etc. Puis, il a fait Machine Gun Priest, tu sais, qui n'ont pas de bon sens, mais qui sont pas si... On parlait d'Adrian Brody, ils sont pas si B-movie, direct ou DVD, ou... tu sais, comme, ben, on a appris pourquoi, malheureusement, mais tu sais, la fin de carrière de Bruce Willis, ou même des John Cusack, là, qui se ramassent beaucoup dans des films weird, très boboches. Guy Pearce aussi, des affaires comme ça. Guy Pearce aussi, qui revient dans Brutalist, finalement. Mais on dirait qu'il y a toujours eu des films juste assez big pour rester au cinéma. Beaucoup de films avec Lionsgate, des affaires comme ça, fait que... Hey, good for him. Puis il a l'air super smart. Il a l'air très cool.
Donc, voilà pour Den of Thieves 2, si vous voulez un petit peu plus d'action, de testostérone dans dans votre cinématographie.
Voilà.
Allons complètement ailleurs avec ça, c'est le genre de film que je suis content d'être un cinéphile. C'est des genres de films que tu portes un préjugé, mais que finalement, tu assistes à autre chose ou tu fais une belle découverte. C'est Better Man de Michael Gracie.
Oui, Michael Gracie, son second film depuis The Greatest Showman.
Quand même. Je suis allé voir, j'étais curieux s'il avait fait quelque chose entre les deux, mais...
Non, puis c'est quoi, genre 2017?
2017, ouais. Fait que, ouais.
Mais ça a l'air, en voyant la mise en scène de ce film, ça a l'air à tenir occupé pendant plusieurs mois de préparation. Qu'est-ce que c'est Better Man ou Meilleur Homme au Québec? C'est un biopic musical, car oui, c'est à la mode. Il y en a déjà Aznavour et Bob Dylan à l'écran. Mais sur Robbie Williams, cette fois-là, donc le chanteur britannique, mais en fait, je pense qu'il est écossais, en tout cas, du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne. Mais là, on se dit, mais on sait pas trop c'est qui Robbie Williams, là, à part Rock DJ, là. Tu sais, il n'est pas tant marqué ici. Malgré tout, c'est mon film, c'est mon biopic préféré de l'année, là. Mon biopic musical préféré de l'année. Je trouve que c'est incroyablement bien monté et ficelé pour être intéressant. Ce qui est cool, c'est que ben finalement, Robbie Williams, c'est le anti-héros que le cinéma avait besoin, plus que Morbius et ce que Sony a essayé de faire. Parce que c'est un peu une marde. Là. Ouais. C'est un peu un trou de cul, ou comme certains disent, une graine. Puis tous ses problèmes personnels par rapport à sa confiance en soi, il veut être un chanteur, puis ça commence quand il va...
Enfin, il va être célèbre.
Il va être célèbre, ouais, c'est ça. Tu vois qu'il est pas bon à l'école, mais il se tient en forme, il danse beaucoup, il fait ses affaires-là. Il veut être sur le showbiz, parce que son père le fait un peu. Puis il va avoir à mener une audition pour former un boys band à la Backstreet Boys et tout, qui s'appelait Take That, que moi, je connaissais pas, mais non, qui a dû être hype dans les mêmes années, début 90 ou mi-90 en Angleterre. Puis, fait qu'il va rentrer là-dedans, mais il va juste être un petit peu le danseur en arrière, puis jamais pouvoir prendre la place. Puis lui, il écrit des chansons tranquillement, il écrit des paroles, il écrit pas de la musique. Puis, ben, tous ses problèmes personnels, c'est ça, de confiance, de quand on le remet derrière, qui pense qu'il a volé sa place de certaine manière, ben, il solutionne ça en prenant plus de drogue. Puis quand il est drogué, puis sous, ben, il dit d'affaires pas fines aux gens qu'il aime. Puis, fait qu'il est pas fiable, puis il est tout croche. C'est pas une personne diabolique. Ce qui est bien dans le film, c'est que Robbie Williams, il est encore en vie, il est encore là. Ouais. C'est lui qui narre le film et qui prête ses yeux au personnage. Parce que l'autre singularité du film, c'est que lui-même est joué par un singe. Mm-hmm. Ben, dans le fond, par Juno Davis, ouais. qui fait du motion cap, dans le fond, et qui est comme un primate, mais qui s'est pas accusé que c'est un singe. C'est juste qu'il fait référence à ça. Il dit « Je me sentais un peu comme un animal de cirque, un singe qu'on... » qu'on paye pour voir. Puis lui-même, c'est ça son mantra. Il dit au début, hey, on s'en fout que t'aimes ça ou pas. T'es juste, t'es populaire, t'es là. Fait que tu mets un sourire d'en face, puis tu le fais. Mais il finit, ça marche un temps, mais il finit par se mentir à lui-même et tout. Fait que ce côté d'accepter qu'il a pas été fin avec ben du monde, là, tu sais. Ouais. Fait que rend ça très réaliste et attachant. C'est donc ça qui en fait un anti-héros, finalement. Tu l'haïs, mais tu finis par prendre pour lui. Et j'ai beaucoup aimé le traitement qu'on fait aux chansons. Sans parler de la mise en scène, mais ça, c'est une grande difficulté dans les biopics, c'est de dire « Hey, cette tune-là est tellement bonne, comment l'as-tu composée? » Ben, on s'en fout, parce que la personne, comment elle l'a composée, là, c'est qu'elle s'est assise derrière son piano, sa guitare, ou ses affaires, elle a pris ou pas 10 bières, puis elle a écrit la tune, puis elle a pioché dessus, puis ça finit par faire ça. Fait qu'à un moment donné, c'est ça qui est arrivé. Le moment où il a pris le saut de composer ses chansons, de travailler avec un pianiste, on le voit, mais c'est comme, ben, il bisoune des textes, puis à un moment donné, il y travaille, puis ouais. Ça devient des chansons, tu sais. Puis on a l'air des interprètes, des intégrés aussi de manière non chronologique dans le film, puis ce qui est bien, tu sais, on veut voir, tu sais, Rock DJ arrive assez tôt quand il est dans Take That, puis méchante scène de montage, justement. Ouais. Là,
non, écoute, Michael Gracie a fait un travail colossal de mise en scène, de chorégraphie. C'est à quoi je m'attendais pas en voyant le film. Mais d'ailleurs, je savais même pas que c'était lui qui avait fait The Greatest Showman avant. Fait que ça se voit à l'écran son amour des comédies musicales. Fait que c'est une réalisation hyper dynamique. Parce que le film est quand même un 2h10 et quand
ouais, à peu près,
quand
ouais,
même. Mais je salue l'audace, effectivement, de Robbie Williams. Je trouve qu'il y a toujours un côté vaniteux narcissique de faire un biopic sur quelqu'un qui est déjà vivant, d'autant plus si c'est lui qui est producteur en plus de son
puis
film.
Sa carrière n'est pas finie. Là,
sa carrière, non, c'est ça. Mais le fait qu'il se censure pas, qu'il assume complètement qui il était, qu'est-ce qu'il faisait, je trouve que ça ramène une dimension très humaine à son personnage. Quand même une histoire intéressante aussi où il était en couple avec, c'était comme un power couple en Angleterre.
Avec la fille de Hall-Saint, Nicole quelque chose.
Nicole hein? Appleton, okay. qui est mariée par après Liam Gallagher d'Oasis.
Ouais, qui devient un peu...
Qui est très drôle les quelques fois qu'on voit dans le film, qui est, je pense, très bien représenté. Puis écoute, c'était audacieux aussi de qu'il soit incarné justement par un singe numérique qui est bien fait quand même, c'est pas cheap. Fait que ça a été une belle surprise, honnêtement. J'avais beaucoup de préjugés, je savais pas à quoi m'attendre.
Mais... Ben, ce qui arrivait, c'est qu'on s'en fout du film.
Ben ouais, c'est... parce qu'on connaît pas.
C'est super le fun à écouter.
C'est ça. Puis les critiques étaient super bonnes, fait que ça m'a comme « Ok, ben tu sais, je vais donner vraiment une chance sincère. » Puis comme tu dis, c'est vraiment très très bon. Écoute, il aurait pu être dans mon top 10 l'année dernière, là, s'il était sorti avant les fêtes. Peut-être qu'il va se retrouver dans lui de 2025, c'est pas impossible. Mais ça faisait longtemps que j'ai été diverti comme ça par un film. Fait que si vous aimez déjà, vous connaissez Robbie Williams, ben c'est sûr que ça vous va vous intéresser. Si vous intéressez à la musique en général, vous aimez ce genre-là, allez-y, même si ça peut paraître un peu étrange, cette formule-là là, de représentation de Robbie Williams. Mais je pense que c'est ce qui rajoute au film. Il faut quand même souligner, même si j'avais pas été un grand fan du documentaire sur Will Ferrell Williams aussi sorti...
Ouais, en Lego.
En Lego, mais je trouve ça le fun que quand même dans la dernière année... On a deux films de ce genre-là qui essaient de dépoussiérer puis d'amener quelque chose de nouveau là, au biopic. Là.
Puis, que... hey, j'ai pas contre-vérifié, mais le prochain film de Michel Gondry, là, c'est aussi sur Pharrell Williams.
Oui, j'ai vu ça passer, effectivement.
Elle a pensé à d'autres choses. Mais oui, là, ce qui est bien, c'est que ça serait trois exemples. C'est sûr que Michel Gondry va faire quelque chose un peu hors format.
J'imagine, oui.
Mais... de réinventer le biopic, tu sais. Mais Piece by Piece, c'était documentaire quand même, mais dans sa mise en scène. Ouais, c'est ça qui est bien. On vient casser le fameux moule qu'après Walk the Line, quand on a fait le Dewey Cox Story là, avec John C. Reilly et tout, c'est devenu la parodie d'arrêter de faire ce moule-là. Puis certains films prennent pas d'audace puis sont très Wikipédia, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, voilà, tu sais.
Ben, je pense que le succès de Bohemian Rhapsody... Complete Unknown
a choisi un peu... son arrivée, puis la fameuse transition guitare, puis quand il a fait un petit fuck you à la scène folk, très encarcanée dans ce qu'elle est, guitare-voix. Puis ici, c'est de dire, oh ouais, c'est l'histoire du gars qui tombe dans la drogue, puis à un moment donné, ça va lui prendre une claque d'en face pour se remettre. Mais voici comment il est dynamisé. Tu sais, quand il y avait eu le grand combat, je me sens entre guillemets, entre Rocketman puis Bohemian Rhapsody, ben, c'est Bohemian puis Rami Malek qui ont gagné peut-être plus de prix, mais Rocketman était beaucoup plus intéressant dans la mise en scène des chansons puis dans l'avancement, même si lui aussi avait... Tu sais, finalement, c'est que tu deviens trop connu trop vite, là. C'est parce que ces gens-là deviennent des célébrités à 18 ans. Tu sais, lui, il était dans le boys band, il avait triché en disant qu'il était majeur, mais il avait 15 ans, fait qu'à 21 ans, il était alcoolique, accro à coke... puis défoncé, il devait dormir 4 heures par jour, même pas par nuit, tu sais. Puis, fait que c'est ça, tu pars la carte, puis ce qui arrive, comme quand des athlètes sportifs déclarent banqueroute, là, déclarent faillite à 24 ans parce qu'ils gagnent 6 millions par année, comment tu fais? Ben, j'ai jamais rien su, j'ai tout dépensé c'est mon sûr, argent, puis tout le monde m'en a volé. Puis...
Ouais.
Fait que c'est sûr que c'est la ligne classique, mais je trouve que c'est une des façons la plus excitante et intéressante de la raconter, finalement, d'assumer que... C'est un pas
fou. Ouais, et puis ça, on contextualise aussi Robbie Williams. Tu sais, s'il est moins connu en Amérique, je suis quand même curieux qu'il n'ait jamais percé tant que ça. Je sais qu'il y a eu des essais. Mais en Angleterre, c'est une méga vedette.
Oui, ouais, ben on le voit. Là,
puis,
il fait
ouais, c'est ça. Puis il avait signé le plus gros contrat de disques au moment, là, au milieu des années 2000, 88 millions d'euros, quelque chose de même, qui était énorme. Ouais, ouais. Là. Fait que là-bas, c'est vraiment une légende. Là. Fait que voilà. Puis c'est une coproduction aussi avec l'Australie. J'ai relevé quand même qu'il est en nomination pour eux, leur équivalent des Academy Awards, qui est les ACTA Awards. Il y a eu 16 nominations.
Oh,
c'est ce qui est un record absolu pour un film. Donc, je pense qu'il était bien apprécié là-bas.
Mais des fois, je veux rien y enlever, mais des fois, les pays qui produisent moins de films, quand il y a un gros film,
ben, ouais,
c'est sûr qu'ils se retrouvent partout, tu sais.
Ben oui.
Même les Césars, ça le fait beaucoup. Là. Ils font énormément des films, la France, mais leurs deux, trois gros films, ben, au Québec, tu sais, Vampire Humaniste, 22 nominations à un moment donné, c'est de dire, ben, oui, on fait 50 films par 40 films par année, mais il y en a quelques-uns qui s'élèvent au-dessus. Tu sais. Aux États, on en voit peut-être, comme ils en produisent encore plus, c'est un peu plus varié peut-être. Là. Puis ça me fait penser, parce que quand tu as dit un artiste qui assume de montrer son côté laid comme ça, tu sais, Rocketman était endossé aussi un peu par Elton John, là, il assumait aussi ces affaires-là, étant encore vivant et tout. Tu m'avais appris il y a quelques mois ou années que Anthony Kiedis, le chanteur des Red Hot Chili Peppers, son histoire, je me souviens plus s'il a développé pour une série télé ou un film, mais c'était comme,
c'était plus
des achats de droits puis du pourparler, là, il n'y a rien en tournage. Mais lui, il avait écrit la biographie, son autobiographie avec un writer, mais c'est quand même autobiographie. Scar Tissue qui avait écrit genre 2005, là, ça date quand même, ça, le band a continué par après. Mais il cachait pas tous ses déboires de drogue puis d'accro à l'héroïne, à coke, à la sexualité même et tout. Fait que peut-être que si on arrivait à le mettre en scène d'une manière plus créative, il y aurait quelque chose de cool à ça, puis pour ça qu'il y a peut-être un succès potentiel. Mais si on le fait très by the book, très classique. Là, je pense que c'est pour ça que je n'étais pas si emballé par ça. Là. Je trouvais que c'était un peu vaniteux, mais écoute. Ça prend quelqu'un d'autre qui t'approche en disant « J'aimerais raconter ton histoire pour que le produit devienne intéressant et que, s'il vous plaît, racontez mon histoire. »
Ouais. Oui, quelqu'un qui a vraiment une approche très artistique non conventionnelle.
Oui, puis tu sais, il y a le classique aussi, à la fin, dans le générique, de voir les vraies images, ouais, ben des photos de trucs qu'on a vus. Hey, ça m'a tiré la larme à l'œil, moi, à la fin, là, quand il fait le show avec l'orchestre et tout.
Oui,
là.
Oui, je vous mets au défi, si vous voyez le film, de ne pas retenir une petite larme à la fin.
Humainement, côté familial et tout, là, parce que s'il fait partie de ceux que ses parents se sont séparés, que son père l'a abandonné, qui ont eu de la misère à... Mais pas abandonné, mais il est parti en tournée, puis il a eu de la misère à connecter, puis à savoir comment s'aimer dans cette relation-là. Tu
sais. Et surtout qu'il se repointe quand même au moment où il commence à avoir du succès. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent chez les enfants vedettes. Là, où, fait que finalement, Justin Bieber, c'était ça aussi. Là. Son père était revenu dans le décor une fois qu'il était
super parce que là, c'est riche, fun de dire que c'est ton fils.
Puis, tu peux-tu m'aider un petit peu?
Ben oui, le parent de Britney Spears qui a gardé son père, qui l'a gardé sous tutelle, genre 35 ans. Là, tu sais, ça vient de finir. Là.
Donc, Better Man, vraiment, je pense que c'est la surprise de la semaine.
Si ça se trouve, on a fait la plus grosse couverture médiatique du film.
Je pense que oui. Allons-y avec moi. Un autre coup de cœur, je pense que c'est le genre de film que j'ai plus aimé que toi, puis c'est correct. Un ours dans le Jura de Franck Dubosc.
Oui.
De l'ami Franck.
De l'ami Franck qui réalise et joue dans le film. Ouais. C'est sa troisième réalisation. Mm-hmm. D'habitude, il réalisait des films qui ressemblaient plus auxquels on le reconnaît. Des comédies romantiques, des comédies de situation, des vaudevilles, des trucs comme ça. Là, il est allé full-on Coen Brothers avec de la comédie noire un peu satirique. Et il met à l'écran aussi de ses amis Benoît Poelvoorde, Laure Calamy. Fait que c'est un couple un peu usé par le temps, qui ont beaucoup de difficultés financières. Ils sont des pépiniéristes, comment dire, pépinistes, en tout cas. Ils ont une pépinière de sapin. On est dans le Jura, justement, qui est comme au nord-est de la France, collé sur la Suisse, tout ça, je me souviens plus. En tout cas, aux limites, fait qu'il y a de la neige par là-bas.
Oui.
Et drôle de timing, c'est un film de Noël, comme Die Hard est un film de Noël. On est autour du temps des fêtes. Michel, le personnage de Dubosc, va avoir un petit accident de la route qui va, par le drôle de hasard, après avoir croisé un ours, tuer une ou deux personnes. Et là, vouloir cacher ça, va comme laisser ça de même en disant hey, « faut pas que ça sache que c'est moi, mais c'est vraiment un bête accident et tout ». Mais ils vont découvrir qu'il y a une mallette d'argent dans laquelle il y a 2 millions de dollars. Et là, va s'enchaîner un jeu de « je suis assez malin pour pouvoir garder cet argent-là sans que le policier que je connais très bien parce qu'on est un petit village réalise que c'est moi. » Puis plus il essaie de cacher des affaires, plus il trouve des cadavres parce que c'est pas pour rien qu'il y avait une valise avec 2 millions de dollars parce qu'il y avait de la magouille puis de la mafia qui se passait par là. Et arrive aussi au poste de police en même temps des réfugiés qui traversent le bois puis que soudainement, ils ont tous besoin d'aller à la toilette parce qu'ils ont des choses dans le derrière. Fait que comédie de situation et de cynisme qui est beaucoup basé quand même sur l'incompétence des gens quand même dans ce facteur-là. Fait que voilà, toi, grand fan de Dubosc.
Ben écoute, oui, j'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais voir. J'avais pas eu la bande-annonce. Donc, moi, j'ai vraiment embarqué ces genres d'humour que j'aime. Un peu bon enfant, décalé, un peu de malaise, tout ce beau mélange-là. Fait que moi, j'ai honnêtement, si vous aimez le cinéma des frères Coen, surtout Fargo, là, on sent que c'est vraiment une lettre d'amour, un film hommage à Fargo. Benoît Poelvoorde, que j'adore.
Il est très bon là-dedans.
C'est un Benoît, le top. Là.
C'est ça, parce qu'il est pas trop niaiseux comme le chef de la brigade policière, mais tu vois qu'il est un peu désabusé. Ouais. Évidemment, c'est comme sa femme l'a laissé ou est morte, je me souviens plus.
Il
est avec sa fille, mais sa fille est à l'arrive à l'âge de la crise d'adolescence de 5 mois à paix, mais amène pas une double vie, mais tu sais, fait pas mal d'affaires en cachette que c'est l'âge où t'aimerais ça le savoir, mais tu sais pas. Fait que pas mal tout le temps avec des TV dinner à dîner chez lui.
C'est tous des personnages qui sont dépassés par les événements. Mm-hmm. Mais en même temps, le scénario, j'ai trouvé vraiment habile parce qu'il nous déjoue souvent. On pense que le récit va s'en aller dans ta direction. Oups, finalement, non. Emmanuelle DeVos, elle a un très beau petit caméo.
Oui, c'est la, comme la directrice du bordel.
Ouais, c'est ça.
Je l'ai brûlé, là, mais...
Donc,
je la voyais au générique, puis quand j'ai préparé mes notes, puis je l'ai vu avant les fêtes, puis j'étais comme, et qui donc? Ah ouais, je pense que c'est ça.
Fait que moi, une belle surprise, genre de comédie noire que j'aime. Puis d'ailleurs, j'ai eu la chance d'interviewer Franck Dubosc.
Ah ben, dis donc,
Cinémania à Montréal. Alors, c'était une belle rencontre, quand même, un bonhomme très intéressant.
C'était pas en personne.
Pas en personne,
ah, c'était en personne, ouais. Ok, je me souviens plus, c'était ça.
Donc,
Y a-tu serré la main?
Sûrement.
Y a-tu fait des blagues? Y a-tu drôle?
Très sympathique, mais pas... Il fait pas le fanfaron, comme... là, nécessairement.
Oui, puis t'arrives dans un contexte où t'as été devant lui 15 minutes, puis après, il y avait quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre.
Mais très sympathique. Puis, donc, l'entretien est en ligne déjà sur monciné.ca. Vous pouvez aller le lire. Et, ben justement, ce qui était très drôle, puis il était très, très honnête, il dit, ben, les genres de films que moi, je joue dedans, c'est pas les films que j'aime voir. Je suis pas consommateur de ces films-là. Ça me fait plaisir de les tourner. Puis le casting, mais il dit c'est que je les écoute pas, tu sais. Fait que moi, je suis vraiment amateur des frères Coen, ce genre-là. Fait que c'est pour ça, vraiment, pour son troisième film, là, je pense qu'il y avait la feuille de route assez acquise comme réalisateur.
Production, ça.
Donc là, je pense qu'il y a peut-être pu avoir les coups des franges pour tourner ce film-là. Mais fait que bref, un beau petit papier en compagnie de Franck Dubosc.
Laisse-moi te parler de deux autres sorties.
Oui.
Et en parlant d'audace cinématographique, Foyer de Zachary Ayotte, un film québécois. On est un peu plus dans le expérimental art et essai ici.
Okay.
Ça se déroule au Saguenay. On a une jeune trentenaire qui a perdu son enfant, qui va venir en aide à un adolescent qui, lui, est en quête de retrouver sa mère biologique. Puis c'est un peu un road movie, là. Ben, c'est le Saguenay. Là. Tu te promènes d'une ville à l'autre, tu essaies de trouver, ils ont des pistes, ils se ramassent souvent dans des maisons... pas abandonné, mais vide, puis ils rentrent un peu par effraction, puis ils checkent, ah, ça a-tu l'air d'être ici, puis ils jouent sur le piano, puis ils se font un œuf, puis ils s'en vont. Là. C'est un film qui a pas été financé, mais qui a été autofinancé, quelques milliers de dollars, toute petite équipe. C'est l'actrice principale, Aude Mathieu, puis Zachary Ayotte, je pense qu'ils sont connus au cégep, fait qu'ils ont travaillé ces idées-là par après. Zachary s'en cache pas, c'est pour lui un hommage à Terrence Malick. De filmer, d'avoir une caméra qui est comme toujours en mouvement, si on repense à l'arbre de la vie, The Tree of Life, avec une narration que Aude Mathieu fait très philosophique, qui décrit un peu ce qui se passe, l'état d'esprit qu'elle pense. On est beaucoup par rapport à la parentalité, mais aussi le peut-être le chosen family, là, le fait que les deux ils se tiennent ensemble, ton sentiment d'appartenance, ton sentiment familial. C'est assez court dans ma mémoire, là, 1h10, 1h15. Là. Fait que c'est plus ce genre de cinéma, c'est moins ma tasse de thé, mais j'ai quand même trouvé beaucoup de points positifs à ce film-là lors de mon visionnement. J'avoue aussi que moi, je l'ai vu un lien de visionnement, mais en cinéma, c'est toujours plus intéressant sur écran, ce genre de truc immersif, là, une petite bulle que t'es là pendant un temps. Mais tu sais, sachez que c'est un film qui a dû coûter 6 000$ à faire, là, principalement en gaz puis en lunch, là, t'sais, parce que c'est un projet d'aminé de même. Mais ce que j'aime bien dans ces premiers jets-là, c'est que des fois, ça nous donne... De grands cinéastes, comédiens, comédiennes, ouais. Super bonne Aude dans ce film-là et tout. Ça me fait penser à Pascal Plante, qu'on salue énormément. On soulignait ses premiers films, puis depuis Les Chambres Rouges, c'est du génie. Mais son premier film à Pascal, c'est même pas Les Faux Tatouages, c'est autre chose avant qui l'a caché. Ça te prend des premiers.
Ouais.
C'est des premiers faits d'armes, puis c'est ça, parce que tu fais beaucoup de courts-métrages, mais amener l'ambition de faire un plus long, 1h15, 1h30, comme quand on reçoit, on avait parlé à Maxime Desruisseaux, des trucs comme ça. Ben, puis c'est pas, je vais pas parler contre leur film, c'est juste que tu peux pas commencer avec Better Man, ça se peut pas, là, tu sais. Ou, ben, puis tu viens de parler de Frank Dubosc, tu sais, Ours dans le Jura, ben, faut que t'arrives avec une proposition, surtout qui était connu comme un acteur comique, fait que de changer tout. Fait que bref, pour Foyer. Peut-être un peu plus largement, Paternel de Ronan Tronchon. Film français, c'est Grégory Gadebois qui joue un prêtre dans une petite bourgade française et qui apprend qu'il est le père d'un garçon de 11 ans. Donc, il a un petit peu triché quand il était au séminaire ou juste sur le bord de faire ses cours finaux de prêtre. Il y a eu une petite aventure. Fait que là, pour mal faire, il y a eu un enfant. Fait que c'est un peu dans cette fameuse... une espèce de renaissance du cinéma dans le cinéma français de moderniser l'Église catholique puis de dire, ben, maintenant, les choses ne sont plus ce qu'elles sont. On pense à l'Apparition, Grâce à Dieu, Magnifica, qui étaient des films qui, à leur façon, parlaient de soit la place des femmes dans l'Église catholique ou accusés par rapport à la pédophilie et tout. Là, quand on pense, je pense que c'était Grâce à Dieu qui était comme ça. C'était pas même François Ozon? Ou... En tout cas, bref. Puis, fait que c'est ça, cette modernisation de l'Église. Fait que c'est Grégory Gadebois, toujours excellent. C'est une espèce de gros monsieur qu'on reconnaît dans plein de films à cette heure. Comme les Français produisent beaucoup, beaucoup de films, c'est pour ça que des Laure Calamy puis des Poilvourdes, puis tout, on les voit dans 4 films par année, Thierry Lhermitte, des choses comme ça, amener les mêmes faces qu'ils réutilisent en principal puis en secondaire. Gadebois avait même une voix là, dans La plus précieuse des marchandises, le film d'animation qui était à l'hiver. Fait que voilà pour Paternel, plus un drame, voire mélodrame là, sur ce conflit-là, parce que comme il a son enfant, ben là, l'Église va vouloir le chasser, puis lui est comme, ben oui, mais ça enlève pas tout ce que je fais de bon pour la communauté puis depuis le début, puis c'est donc ben anti-catholique, justement, de dire, ah ben t'as eu un enfant, tu peux plus être prêtre, tu peux plus t'occuper de ce que tu fais, mais je suis comme, je suis pas encore meilleur, peut-être, finalement, pour aider l'autre et tout, tu sais, j'ai le rôle de... Surtout que c'est drôle parce que les prêtres disent toujours mon fils, tu sais, fait que, là, littéralement un fils. Fait que voilà. Et fun fact, ben, j'ai pas trouvé de preuve, mais là, je peux pas croire que, comme je dis, c'est Ronan Tronchon, le cinéaste, puis c'est lui qui fait la musique, c'est Damien Tronchon. J'imagine que c'est son frère. J'ai cherché l'information, bon, pas pendant 2 heures, mais j'ai cherché pendant quelques minutes, j'ai pas trouvé la preuve, mais je suis comme, ben, là, 1 + 1 = 2, là, j'imagine que c'est son frère. Fait que, un projet amical là-dessus, un projet familial. Oui, c'est tout pour cette semaine, mais les prochaines semaines, c'est ça, du 5-6 films.
Une déferlante de sorties.
Ouais, toi, tu vas aller à Unifrance réaliser quelques entrevues pour le magazine et le site web, justement. Fait que tu seras quand même de tous les épisodes, mais ça va peut-être modifier nos dates de sortie puis faire que des fois, on va voir un peu moins de films puis un peu plus la semaine d'après. Il y a aussi beaucoup de... Peut-être vous attendiez à ce qu'on parle du Brutaliste, par exemple, mais là, tu sais, il sort à Montréal juste en 70 mm. Il sort plus largement le 24 janvier. Même chose, Les Graines du Figuier Sauvage. Il y a beaucoup de films qui sortent à Montréal puis qui sortent plus tard à Québec. Et ben parce que nous, on est à Québec, mais Québec, Sherbrooke, tout le réseau plus large. Fait que peut-être que des fois, on pourrait les voir d'avance, mais on va essayer de garder avec la sortie large. C'est plus simple pour nous. Là, sinon, on ferait 13 films une fois. Voilà. Fait que la semaine prochaine, ben, on parle entre autres des Graines du Figuier Sauvage, La Chambre d'à côté, le premier film américain de l'Espagnol Pedro Almodovar, et Wolfman aussi de Lee Whannell, qui a l'air très cool.
Qui avait étonné avec son Homme invisible il y a quelques années. Fait que j'espère qu'il va continuer à renouveler un peu le genre du monster movie.
Ouais, puis ce que j'aime, c'est que, si je me trompe pas, le running time est à comme 1h10, 1h40, 100 minutes. Fait que je pense que ça va être quand même assez droit au but à sa façon. Là. Bon, c'est pas 1h20, mais on n'est pas dans le 2h05 et tout. Là. Ça a l'air de se passer très concentré. September 5 aussi, 5 septembre, sur cette fameuse équipe journalistique de sport, mais qui doit couvrir la prise d'otage aux Olympiques de Munich. 79, c'est ça? 72. 72, oui, c'est un chiffre pair, c'est ça. Voilà, fait que la semaine prochaine, ouais, déjà un gros menu. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux, magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Et procurez-vous gratuitement le magazine Monciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour lire l'entrevue avec Franck Dubosc et pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Si jamais vous tombez sur un sac plein d'argent, vous êtes mieux de laisser sur place. Ça va éviter plein de problèmes.
Ouais, cadeau empoisonné.